Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 12 mai. Ben, écoutez, on s'est quitté en été la dernière fois et on se retrouve en automne.
Oui, tout à fait. Ça passe vite le temps.
Donc, la meilleure chose que vous pouvez faire ce matin, c'est de nous écouter.
Voilà.
Ben oui, parce qu'on va vous apporter un peu de soleil, je l'espère en tout cas. Je suis en compagnie des mousquetaires de Vues et Voix. Ben oui, parce qu'on est
trois
et on est quatre.
Oui.
On est quatre, ben oui, avec la relève. Alors, je suis en compagnie d'André, André-Étienne et de Marie Lalonde.
Bonjour.
Bonjour.
Marie, de quoi tu nous parles aujourd'hui?
Alors, je vous parle de quatre petits sujets. D'abord, deux sujets sur l'énergie solaire comme solution au problème de l'eau et pour aider les agriculteurs. Et après la pause, je vous parle de numérique dans le monde des magazines et dans celui des guides de voyage.
Bien.
Super.
André, de ton côté.
Alors moi, ben, je vais nous faire croire qu'on est vraiment en été. En tout cas, je vais vous faire rêver de croisière.
Oui.
Alors, c'est un article qui donne des conseils pour une croisière à mobilité réduite.
Ah bon?
Oui. Donc, ça va être dans la première partie de l'émission. Et dans la seconde, c'est une compilation de deux articles sur une croisière sur la Loire.
Wow. Oui, c'est nouveau, hein?
Oui, c'est très nouveau.
Ça semble très intéressant.
Oui.
De mon côté, je vais vous parler d'oiseaux, des toutes sortes de particularités chez les oiseaux. Et vous n'avez pas besoin d'être ornithologue hein, pour suivre cette chronique, c'est très simple. Et je vais vous amener aussi à Nairobi. Nairobi, quelque chose de très particulier. C'est une ville, mais c'est aussi un parc national. Alors, restez avec nous, hein, vous allez apprendre plein de choses. Alors, d'abord, ça s'appelle « Printemps silencieux ». C'est tiré de « Québec oiseau » du printemps 2015 et c'est par Michel Préville. Au cours des années 1990, l'introduction d'une nouvelle classe de pesticides. Bon, si vous voulez savoir le nom, c'est les néonicotinoïdes. Et ces pesticides-là devaient révolutionner la lutte aux insectes ravageurs en réduisant la dose nécessaire pour les éliminer. Ces insecticides systémiques se répandent dans toutes les parties de la plante pour agir ensuite sur le système nerveux des insectes qui s'attaquent à ces plantes-là. On a fait grand cas, bien, évidemment, de l'impact de ces néonicotinoïdes sur les abeilles. On en a parlé récemment, d'ailleurs. Et les autres pollinisateurs aussi, et qui sont essentiels pour la production de fruits et légumes. Mais on commence à peine à mesurer leurs conséquences sur l'ensemble des êtres vivants. L'an dernier, une trentaine de chercheurs indépendants ont passé en revue pas moins de 800 études sur le sujet.
Bon, alors, dis-nous un peu les conclusions.
Ben, les conclusions sont particulièrement alarmantes. Ces insecticides qu'on vient de mentionner s'infiltrent dans le sol et s'y accumulent. Ils sont solubles dans l'eau qui pollue en surface, mais aussi en profondeur. Et ils peuvent persister des mois et parfois même des années dans l'environnement. Ils sont très toxiques. Imaginez-vous, 5 000 à 8 000 fois plus que le DDT. De triste mémoire, hein? Vous vous rappelez qu'il a été banni. Alors, 5 000 fois ou même 8 000 fois de plus. Bref, il empoisonne toutes les espèces qui sont en contact ou à proximité des cultures, ce qui fait beaucoup. Hein? Mm-hmm. Alors, les organismes vivants sous terre ou dans l'eau souffrent de façon chronique de ces produits. Et cela provoque des effets en cascade sur les vertébrés, comme chez les oiseaux qui se nourrissent des vertébrés, qui se nourrissent des insectes, bien sûr. C'est la chaîne alimentaire. Hein? Oui. Donc, en 2013, l'Union européenne a décrété un moratoire de 2 ans sur l'utilisation de certains néonicotinoïdes, alors que le Québec ne semble guère avancer dans sa réflexion. Bref, il n'y a vraiment pas lieu d'être optimiste pour les oiseaux champêtres dont les populations ne cessent de décliner. Mm-hmm. Alors, c'est inquiétant, néonicotinoïdes. Dans les abeilles, on en a parlé, on sait qu'il y a énormément de
c'est complètement fou, le problème des abeilles.
Tout à fait. Autre petit sujet. Vous savez que les migrateurs sont programmés pour effectuer des migrations selon un cycle régulier, mm-hmm. Même à chaque date, on peut dire. Et la question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils peuvent entreprendre des migrations en dehors de leur cycle habituel pour déjouer Mère Nature? Mmh. Et la réponse est oui.
Étonnant.
Des chercheurs viennent de tout juste documenter pour la première fois le cas d'un groupe de parulines à ailes dorées. Bon, le nom est pas plus important qu'il en faut, mais ces oiseaux-là ont entrepris une migration de plus de 1500 km pendant 5 jours afin d'éviter d'affronter une importante tempête.
Ah oui.
Donc, ils étaient capables de la prévoir, exactement. De la sentir.
Exactement.
De la pressentir.
Ces parulines qui étaient nouvellement arrivées au printemps ont quitté leur territoire de reproduction plus de 24 heures avant l'arrivée du mauvais temps afin de retourner plus au sud. On pense que ce sont des infrasons. Des sons minuscules que d'accord. Nous, souvent, on ne peut pas détecter. Ce sont des infrasons en provenance de la tempête localisés à plus de 1000 kilomètres de
leur
site
hein?
De nidification qui aurait servi de signal d'alarme.
C'est leur météo-média.
c'est une espèce de radar. Il faudrait suivre les oiseaux et dire « Oh, c'est le temps de partir. » Maintenant, autre particularité des oiseaux, il y a une nouvelle étude qui démontre que le mercure qui est présent dans l'environnement peut altérer un outil de communication essentiel chez les oiseaux.
Mais de quelle façon ça altère leur chant?
Ça altère leur chant parce que les recherches menées en Virginie ont permis d'établir des différences marquées entre le chant des oiseaux fréquentant des milieux sains. Ils sont contaminés et produisent des chants qui sont plus simples, plus courts et plus graves.
Ah bon?
Que les autres. Donc, le chant est différent.
Ouais,
différent. Alors, certains oiseaux apprennent à chanter en imitant leur père. Et les chercheurs croient que le mercure peut endommager certaines fonctions cérébrales chez ces espèces, ce qui les empêche de bien assimiler les leçons de chant de leur père, comme c'est le cas chez les humains, dont les fonctions motrices qui contrôlent le langage pourraient être affectées par le mercure aussi.
Oui. Ah oui. On sait que c'est un produit qui est extrêmement toxique.
Oui. Il faut consommer
la peinture,
avec modération.
La peinture.
Oui. Donc, la question qu'on peut se poser, si le père chante déjà faux, Qu'est-ce qui va arriver avec les oisillons? Hein?
Oh non!
Autre petite particularité chez les oiseaux. Il y a un oiseau qui s'appelle l'Olia cendré, que je ne connais pas, qui est un passereau d'Amazonie. Il a un pelage gris terne, donc oiseau ordinaire, si on veut. Et contrairement à leurs parents, les rejetons de cette espèce ont un plumage orange tacheté de noir. Et leur duvet prend l'apparence de poils.
C'est curieux, ça.
Ah, la question qu'on peut se demander, c'est pourquoi une telle extravagance, dans le fond? Ben, c'est que tout indique que cette robe reproduit celle des chenilles toxiques. Donc,
c'est
jaune, tacheté de noir, afin de duper les prédateurs qui voudraient s'en prendre aux oisillons. Ils les prennent pour des chenilles.
C'est du camouflage.
Ah, pour compléter cet artifice, les jeunes âgés de seulement 6 jours mettent à contribution leurs compétences en déplaçant lentement leur tête de gauche à droite, à la façon d'une chenille qui n'aime pas être dérangée. Il s'agit d'un cas de mimétisme qu'on trouve dans la nature, qui est un mécanisme de défense qui consiste à imiter un organisme nocif. On le voit chez des serpents, on le voit un peu partout dans la nature. Donc, toutes sortes de petites particularités chez les oiseaux. C'est tiré de Québec aux oiseaux, printemps 2015.
C'est bien intéressant, merci. Bien, moi, je vous ai promis donc une croisière à mobilité réduite et cet extrait du courrier du Globetrotter écrit par Stéphanie Bérubé le 24 avril de cette année. Chaque semaine, cette rubrique répond à la question d'un lecteur pour l'aider à mieux planifier ses vacances. Et voici la question de Jean-Marc Baudouin. Il dit « Je suis atteint de sclérose en plaques depuis bientôt 12 ans. Je me déplace à l'aide d'une canne pour les courtes distances, plus ou moins 400 mètres, autrement en fauteuil roulant. Par ailleurs, je supporte difficilement la chaleur. Nous envisageons de faire une croisière en Méditerranée. Est-ce une bonne idée? Si oui, quel est le meilleur moment pour faire ce voyage et les bateaux sont-ils adaptés pour les personnes à mobilité réduite? » Alors voici les différentes réponses à ces questions. D'abord, l'auteur parle de la température. Alors, elle recommande d'éviter l'été parce qu'il va faire très, très chaud sur le bateau et dans les ports européens qui seront aussi beaucoup plus achalandés pendant l'été. Pensez plutôt à mai ou octobre si c'est possible. Elle recommande aussi de choisir une croisière d'au moins une semaine parce que ça permettra de passer quelques jours en mer.
Ce qui est toujours agréable.
D'ailleurs. Exactement. Puis en plus, c'est pratique parce qu'elles permettent de déposer les valises une seule fois, mais aussi de voir du pays sans avoir à les transporter. Alors, pour ce qui est des installations, elle dit que la plupart des bateaux ont maintenant des cabines adaptées, mais elle souligne qu'il faut absolument indiquer les besoins qu'on a au moment de la réservation. Cependant, elle précise quand même que c'est souvent bien compliqué de faire des réservations en ligne dans ces conditions-là. C'est plus préférable de contacter une agence ou l'exploitant du bateau pour faire les réservations. Elle dit évidemment que ça permettra de poser les bonnes questions avant de choisir et la compagnie de croisière et le trajet. Parce que des questions, il y en a quelques-unes, même beaucoup, précise Isabelle Ducharme, qui est une grande voyageuse et qui est aussi la présidente du conseil de Kéroul. Kéroul, c'est le spécialiste en tourisme pour les personnes à capacité physique restreinte. Et elle dit que si la croisière est bien préparée, c'est un paradis pour les personnes à mobilité réduite. Elle a fait l'expérience elle-même et elle en a gardé un excellent souvenir. Elle dit d'ailleurs que passer une semaine sur un bateau dans un même environnement, ça a un côté rassurant. Parce que les passagers, notamment ceux qui sont à mobilité réduite, ils n'ont besoin qu'une seule fois de trouver leur repère, de repérer où sont les ascenseurs, les sorties. Bon, il y a quand même des vérifications à faire avant de partir. Alors, les bateaux. C'est important de s'informer sur l'âge du bateau. Parce qu'évidemment, les bateaux les plus récents ou rénovés depuis 10 ans sont mieux adaptés. Et il faut noter une chose intéressante, c'est que la clientèle à mobilité réduite est un marché en croissance. Le transport, il faut y penser aussi parce qu'entre le point d'arrivée et le port, il peut y avoir des difficultés le jour du départ. C'est parfois inclus avec le forfait de la croisière, mais les passagers doivent s'assurer qu'il est possible d'obtenir un transport adapté. Les excursions, ça c'est encore un autre point. Également se renseigner sur les escales proposées. Si jamais le bateau n'accoste pas et que les passagers vont en excursion, les voyageurs qui sont à mobilité réduite ne peuvent pas monter à bord. Alors bon, rassurez-vous, la plupart des croisiéristes quand même ont des excursions qui sont accessibles à tous, mais il faut s'en assurer. Et Anne-Sophie Hamel de CAA précise que même si une excursion est présentée comme accessible à tous, il faut discuter avec un spécialiste qui a fait la visite. Pourquoi ? Si le bus, par exemple, doit se garer à l'extérieur d'une ville, je pense à Rome, le groupe se rend à pied au point d'intérêt, encore des questions à poser. Les escales. Si on fait une réservation, il faut s'informer sur les escales, car cela pourrait guider votre choix d'itinéraire. Suzanne Lambert de Lorient-du-Vallon insiste, les villes européennes, par exemple. Avec leurs rues en vieille pierre, elles comportent évidemment d'immenses défis pour les visiteurs en fauteuil roulant. Idem pour les monuments historiques. Cette spécialiste recommande de savoir ce qui vous attend lors d'une escale. Le trajet. Pour un premier voyage en Méditerranée, toujours cette Anne-Sophie de CAA propose une croisière au départ de Barcelone qui voguerait vers l'Italie en passant par la Côte d'Azur. Et ce qui est bon à savoir, c'est que les villes qui ont été hôtes des Jeux olympiques et donc des Jeux paralympiques sont les mieux adaptées.
Oui, c'est juste.
C'est vieux. Par exemple, c'est vrai, hein, puisque ça a été prévu vraiment et ça reste donc Athènes, par exemple, Barcelone. Toutes les grandes lignes de croisière ont maintenant des services pour leurs clients à mobilité réduite en ligne et par téléphone. Et toutes les compagnies de croisière contactées pour cet article ont donné des réponses semblables. C'est la preuve que les services offerts aux personnes à mobilité réduite s'améliorent sur les bateaux. Ils ont évalué évidemment un système d'évaluation pour les services offerts aux personnes âgées et ils ont constaté que en donnant plus de détails sur les excursions pour personnes à mobilité réduite, il y avait plus de possibilités pour eux. Au moment de faire votre réservation, vous pouvez aussi réserver du matériel auprès de la compagnie. Il se trouvera dans votre cabine à votre arrivée. Alors, c'était un article de Stéphanie Bérubé, une croisière à mobilité réduite pour le courrier du Globetrotter du 24 avril. Thank you.
comes the sun, here comes the sun, I say, it's all right.
Fait approprié. Hein?
Jolie entrée en matière.
Here comes the sun.
Oui, des Beatles.
Il reviendra.
Oui.
C'était par les coccinelles.
Oui, ou les bébites, c'est selon.
Les coccinelles qui sont de saison. Hein?
On espère qu'ils vont revenir.
Des coccinelles.
Alors, on va vous parler du soleil.
Ah, oui.
D'abord, le soleil à la rescousse d'une planète qui a soif. C'est un texte de Juanise Martinez de Metro News World, publié le 22 avril dans le journal Metro. Un inventeur néerlandais a mis au point un prototype, le désolinator ou désalinisateur en français, qui pourrait s'avérer le moyen le plus abordable et le plus écologique de dessaler l'eau de mer. L'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF estiment qu'une personne sur neuf dans le monde n'a pas accès à de l'eau propre et potable, ce qui entraîne chez 780 millions d'êtres humains, surtout dans les pays en développement, des maladies liées à l'insalubrité de l'eau. Et la situation est en train de s'aggraver en raison des changements climatiques qui affectent de plus en plus la planète. À terme, il semble inévitable que l'humanité doive affronter une grave pénurie d'eau potable. Sachant cela et considérant que 96 % de l'eau sur la Terre est salée, il faut trouver des moyens efficaces de dessaler l'eau. Au cours des dernières années, certains procédés ont été élaborés pour y parvenir, mais ils sont coûteux et beaucoup de pays en développement n'ont pas les moyens de les utiliser. C'est pour résoudre ce problème qu'un ingénieur néerlandais, William Jensen, a mis au point un appareil innovateur et astucieux, capable de purifier l'eau polluée comme l'eau salée, à peu de frais, à l'aide de l'énergie solaire.
Bon, on a bien hâte de savoir comment ça fonctionne, hein?
Oui. Alors, le désalinateur fonctionne selon un principe simple d'ébullition de l'eau. Son carburant, c'est l'énergie solaire. Dès qu'il fait beau, on peut obtenir de l'eau distillée en chauffant de l'eau salée sur un panneau solaire. La vapeur d'eau qui s'en dégage est ensuite recueillie et condensée, puis bouillie à nouveau. Grâce à son procédé unique de distillation, l'appareil produit de l'eau potable à partir de l'eau polluée ou de l'eau salée, qui est habituellement plus difficile à traiter, sans devoir recourir à des filtres ou à des produits chimiques. Tout ce dont il a besoin, c'est de l'énergie du soleil à laquelle il doit être exposé chaque jour. Ainsi, son module photovoltaïque se réchauffe et l'énergie qu'il produit est soit réfléchie, soit emmagasinée pour continuer d'alimenter le circuit. Monsieur Jensen et ses collaborateurs espèrent que leur invention permettra d'ici 2020 à 1 million de personnes d'avoir accès à de l'eau potable. En ce moment, ils sont en période de rodage. Ils veulent s'assurer que l'appareil est aussi fiable que possible. Leur objectif, c'est que le plus petit désalinateur puisse produire 15 litres d'eau pure par jour. Ils se sont fixés un échéancier. Ils aimeraient que l'appareil soit prêt à être mis en marché à la fin de l'année et ils veulent le rendre disponible partout où les gens sont intéressés à l'avoir. L'appareil sera utile aux personnes qui ont accès à de l'eau polluée ou salée. Pour celles qui n'ont pas du tout accès à l'eau, il faudra trouver d'autres solutions. C'était un texte de Vanise Martinez, publié le 22 avril dans le journal Métro.
C'est juste une petite note, tu sais, sur les bateaux de croisière, des désalinisateurs.
Ah bon, il y a ça aussi.
Absolument. L'eau est, on pompe l'eau de mer et c'est désalinisé. Ah, et je vous expliquerai pourquoi.
C'est pratique.
On voit l'expérience du voyageur. Hein?
On voit, oui. Autre exemple intéressant au sujet de l'utilisation de l'énergie solaire, cette fois-ci, c'est un texte publié sur le site Mondialisation le 20 avril. Le titre, c'est « Un Belge invente le réfrigérateur solaire contre la faim dans le monde ». Conçu pour aider les fermiers et les habitants des pays en voie de développement, le Wakati, c'est le nom de cet objet, est un espace stérilisé, alimenté à l'énergie solaire, pouvant permettre de garder des produits frais pendant 10 jours. Arne Powels est le fondateur de ce projet très utile développé dans le cadre de son parcours universitaire à l'Université d'Anvers. Le jeune Belge explique que le projet Wakati est né à la suite d'un voyage en Éthiopie aux côtés d'un producteur local. Là-bas, il a pu observer les terribles pertes que représentait la mauvaise conservation des produits récoltés. Ainsi, il a décidé de concentrer ses efforts sur l'accès à la conservation alimentaire. En effet, d'après les Nations unies, 45 % des fruits et légumes sont gaspillés avant d'atteindre le marché, gâchant par la même occasion les investissements et le travail préalablement réalisés. Wakati se définit comme un espace de stockage stérilisé et aéré par un panneau solaire de 3 watts. En termes simples, c'est un réfrigérateur autonome et simplifié. L'énergie issue de ce panneau solaire alimente un ventilateur positionné sur une coupe d'eau, rafraîchissant les récoltes et créant un environnement assez humide pour permettre la conservation. Dans ce système, seulement 190 ml d'eau sont nécessaires chaque semaine. Sa fraîcheur éloigne les acides et les enzymes qui attaquent normalement les fruits et légumes. Avec ce procédé testé en situation réelle, les végétaux hydratés peuvent être conservés une dizaine de jours au lieu de 2 ou 3. Une semaine de conservation, c'est autant de temps gagné pour vendre les aliments récoltés, maximiser le revenu des fermiers, qu'un accès à une alimentation fraîche pour la population. Si la technologie peut sembler simpliste, à vue d'œil, elle devrait être abordable aux populations les plus fragilisées où on n'a pas accès à l'électricité de façon systématique. Le Wakati n'utilise qu'1% de l'énergie d'un réfrigérateur moyen et son capteur solaire le rend autonome.
Est-ce que c'est accessible? Est-ce que ça va être accessible?
Et ça devrait, on le souhaite, parce qu'en ce moment même, Wakati est testée à Haïti, en Ouganda et en Afghanistan. Elle devrait être bientôt mise en vente à moins de 100 euros l'unité, principalement aux ONG et aux associations humanitaires en recherche de solutions pour venir en aide aux populations et aux producteurs locaux des régions les plus pauvres.
Alors, le monsieur va demander à madame, est-ce que tu as mis le lait dans le Wakati?
Dans le Wakati, c'est ça. Je rappelle que c'était un texte publié sur le site Mondialisation le 20 avril dernier.
Oui, la malbouffe et les grandes soirées sportives. Peut-être qu'on va en avoir encore une ce soir, une grande soirée sportive. Mm-hmm. Le sport d'équipe et la malbouffe, ça semble vraiment faire bon ménage. Bon, il suffit pour s'en rendre compte de compter les lieux de restauration rapide, les bars qui installent des écrans plats, particulièrement ce soir, hein, vous vous en doutez. La malbouffe, c'est une vache à lait pour les établissements de restauration rapide qui mise sur les grandes soirées, comme celle du Canadien ce soir. Et pour vendre la bière, les ailes de poulet épicées, des bâtonnets de fromage, des rondelles d'oignon, ben vous savez, hein, qu'est-ce qu'il y en a. Hein? Et selon certains spécialistes en nutrition sportive, cette réalité découle des publicités télévisées, des grandes chaînes de fast-food qui influencent énormément. Et l'un des nutritionnistes qui préfère garder l'anonymat indique que les spectateurs de matchs sportifs, majoritairement des hommes, ils seraient gênés de manger en public une salade ou un poisson grillé, alors que les consommateurs, les autres, prennent un gros steak, 24 ailes de poulet, une pizza extra large et le tout d'arrosé de bière à profusion. J'aimerais une salade, s'il vous plaît.
La dédication à faire.
Pas sûr que ça passerait.
Alors, moi, je vous parle encore de gastronomie aussi, mais une gastronomie un petit peu différente, n'est-ce pas? Ce que je vous propose avec cette braise, c'est un lunch à 6 pattes. Oh. Alors, si vous voulez échanger votre sandwich déjeuner contre un bol d'insectes, ça vous dirait?
Non, merci, ça va bien.
Ça vous plaît pas?
De toute façon.
Pourtant, savez-vous que le menu des 3/4 de la planète contient des sauterelles jusqu'aux larves de papillons?
Mm-hmm. Et c'est très bon, d'ailleurs. Mm-hmm. Je peux vous dire ça.
Bon, ben bravo.
Oui, c'est très bon.
Moi, j'ai mangé des insectes, mais j'ai trouvé ça un peu trop craquant.
Craquant, oui.
Oui. Il y a un groupe d'étudiants de l'Université McGill qui travaille sur les façons, justement, de transformer les insectes en repas quotidiens. Ce sont 5 étudiants, et ils ont d'ailleurs remporté un prix qui est décerné au groupe visant à trouver une solution pour régler les problèmes sociaux les plus urgents de la planète. Alors, l'Organisation des Nations Unies dit qu'avec la population qui devrait atteindre les 9 milliards d'ici 2050, on va avoir un problème de nourriture parce que la production devrait doubler. Alors, c'est pourquoi, là, les lunchs à 6 pattes feront leur entrée.
Et vous savez qu'à chaque année, le Jardin botanique fait une journée de dégustation d'insectes.
Oui,
c'est le temps d'essayer des insectes.
Oui, c'est bien ça. Voilà. N'oubliez pas, Michel nous le disait, les insectes sont riches en protéines, en fer et en calcium. Alors, le problème, c'est que les insectes doivent être récoltés à la main dans la nature. Et c'est une récolte qui est saisonnière.
Écoutez, Kiosque Magazine.
La croissance de Nairobi menace son parc national. Bon, on connaît généralement des grands parcs nationaux en Afrique. Je pense à Masai Mara, je pense à Serengeti, le parc du Kilimanjaro. Ce sont des parcs nationaux au Kenya particulièrement et en Tanzanie. Et lorsque vous voyez des films, la plupart du temps, c'est près à ces endroits-là. Mais il y en a un autre qui est peut-être un peu moins connu. C'est le parc de Nairobi, je dis bien. Bon, vous avez une image qui est un peu un cliché des guides touristiques. Une girafe, des zèbres au milieu de la savane et des gratte-ciels en arrière, en arrière-plan. Et flanqué d'une capitale en croissance exponentielle, c'est le parc national de Nairobi, qui est unique en son genre, vous l'imaginez, hein? Mais c'est un parc qui est menacé. Nairobi, c'est l'une des villes qui croît le plus vite en Afrique. Donc, il y a une énorme pression, vous imaginez, sur le parc. La réserve représente 15 % de la superficie de la capitale kenyane. C'est beaucoup,
c'est quand même.
Oui, c'est beaucoup, hein? Et les pressions sur le plus ancien parc d'Afrique de l'Est, qui a été dessiné par les colons britanniques dans les années 40. Alors, ces pressions-là viennent de toutes parts. Des infrastructures de transport, les usines, les habitations plus ou moins sauvages, vous imaginez, autour. Et au sud, vous avez le parc qui a dû faire face à un développement d'une vaste zone urbaine qui prive la faune d'un couloir de migration naturelle en direction d'autres parcs. Bon, d'autres parcs comme Amboseli, où vous avez les grands parcs dont je parlais, Masai Mara et Serengeti. Vous avez certainement déjà vu la migration des gnous. Mm-hmm. C'est, oui. C'est énorme. Hein? En anglais, c'est wildebeest. D'ailleurs, il a été fragilisé par l'arrivée d'usines de ciment et des nuages de poussière. Donc, vous imaginez l'image. Hein? Mm-hmm. Le parc national, la ville de Nairobi à l'arrière, des constructions un peu sauvages un peu partout. Aujourd'hui, une nouvelle bataille mobilise les amis du parc. Deux grands projets d'infrastructure. Il y a une rocade et une ligne de chemin de fer. C'est tout à fait vital pour moderniser le transport de marchandises dans la région, mais que le promoteur envisage de faire passer à travers le sanctuaire.
Vous voyez
la photo un peu, hein, le chemin de fer qui passe en plein centre.
Des groupes de défense.
Les groupes de défense de l'environnement ne remettent pas en cause le développement d'infrastructures. Ils sont absolument essentiels. Pour désengorger la capitale. Capitale qui a quand même 4 millions d'habitants.
C'est important. C'est un nombre important. Ça doit faire une plaque tournante, Nairobi, pour l'économie.
Tout à fait. Nairobi se targue d'accueillir de plus en plus de sièges régionaux, de multinationales, de jouer un rôle économique en croissance dans toute l'Afrique de l'Est et paralysé par un trafic saturé de voitures, de poids lourds qui relie des ports de Mombasa, particulier, mm-hmm. un nom connu, hein, Mombasa, et aux pays voisins en traversant son centre. Alors, donc, vous voyez que c'est un développement un peu sauvage, tout ça. Hein. Le Kenya, c'est un pays en développement. Bon, nous avons besoin de routes, de lignes, de chemins de fer, de ponts. Et ça, c'est un député de l'endroit qui nous le mentionne. Mais il est regrettable que la plupart des grands projets d'infrastructure au Kenya mange des parties du parc, gruge peu à peu le parc. Au fil des ans, la population du parc de Nairobi a déjà considérablement évolué. Quand on parle de population, ben on parle bien sûr des animaux. Les obstacles qui se sont multipliés sur le chemin de la migration dissuadent désormais les gnous, dont je parlais tout à l'heure, qui s'y aventurent. Les guépards aussi, qui sont souvent tués sur les routes adjacentes et qui, à force de se faire décimer, ils quittent peu à peu le parc. Hein? Le guépard, qui est l'animal le plus rapide au monde, d'ailleurs. Alors, quand ils voient passer des camions et tout ça, ils déguerpient et ils sont en train de s'en aller dans d'autres endroits. Il y a aussi un autre phénomène important, les conflits entre les lions et le bétail. Parce que comme il y a de moins en moins d'animaux, les lions ont besoin de se nourrir. Et à quoi vous pensez qu'ils s'attaquent?
Ils s'attaquent
au bétail local. Et des communautés qui vivent alentour, toujours plus près des parcs, et de plus en plus de troupeaux de vaches, de chèvres sont décimés, qui entraînent, vous vous en doutez, des opérations de représailles contre les prédateurs de la part des
éleveurs.
Des éleveurs, tout à fait.
Normal.
Alors, plus on réduit le parc, plus on réduit le territoire des animaux. Alors, il y a donc également des risques accrus de lutte de territoire entre les traditionnels occupants de la réserve, comme les rhinocéros et les lions. Rhinocéros qu'on trouve de moins en moins partout. Hein. Un des rhinocéros qu'on a déjà parlé.
Sans parler des
dégâts qui sont causés par les braconniers. Oui. On en a parlé à plusieurs reprises, hein, qui n'hésitent pas à venir chasser ici, à quelques mètres du siège de l'organisme de gestion de la faune et de la flore du Kenya. Vous avez l'organisme et ils viennent braconner juste à l'entour.
Ils ont peur de rien. Hein?
C'est absolument incroyable. Particulièrement des rhinocéros. Hein.
Ouais.
Et le rhinocéros blanc, je pense que j'en parlerai quelque chose comme la semaine prochaine. Vous savez que le rhinocéros blanc, c'est un faux nom. Hein? Il n'est pas blanc du tout.
Pourquoi on l'appelle blanc, alors?
Une erreur de traduction. En anglais, c'est « wide rhino ».
Okay.
Ça veut dire « gros ».
Et non pas « white ».
Et on a compris « white » et on l'a appelé rhinocéros blanc.
D'accord.
Faux. Petit aparté. Et bien, vous savez que des rhinocéros et leurs cornes sont vendus à prix d'or sur les marchés asiatiques. J'aurai des chiffres un peu plus précis la semaine prochaine. C'est énorme. C'est épouvantable. Alors, la réserve qui recèle plus de 550 espèces d'oiseaux attire quelque 150 000 visiteurs par an, est importante pour la population du pays, pour l'économie du pays, mais aussi c'est une bouffée d'oxygène qu'elle apporte en réduisant la pollution. Alors, Un petit tour dans Nairobi, le parc de Nairobi. Alors, ça vous donne un petit peu une idée de tout ce qui se passe là. Et c'était tiré de la presse du 18 novembre par j'oublie son nom.
Alors, je vous avais promis donc la compilation de deux articles sur la Loire en croisière. C'est extrait de la presse du 7 mai par André Lebel. Alors ça, c'est toute une nouveauté parce que pour la première fois cette année, des croisières sont offertes sur la Loire. On l'appelle le fleuve royal. Et on dit d'ailleurs dans tous les guides que c'est le dernier fleuve sauvage.
Sauvage.
Sauvage, ben oui, parce qu'en fait, jusqu'à maintenant... ce fleuve qui est français, évidemment, est toujours ensablé, il est très peu profond, et de ce fait-là, les navires de croisière ne pouvaient pas s'y aventurer, évidemment. Mais cette année, c'est une grande nouveauté, c'est un croisiériste de Strasbourg, qui s'appelle Croisière Europe, a fait construire un nouveau navire qui est tout à fait adapté aux particularités de la Loire. Il s'appelle le MS Loire Princesse.
Oh, c'est joli.
C'est joli, hein? Ça fait un petit peu américain quand même, mais oui. C'est pas grave.
Il a été princesse de la Loire.
Ben voilà, par exemple, il a été inauguré le mois dernier, donc en avril, et il a été construit quand même dans les chantiers navals de Saint-Nazaire. Alors, il combine la technique ancienne de la rue à Aube et les nouvelles technologies. C'est un fleuve qui a un très faible tirant d'eau, juste 70 cm, et une carène qui est plate pour pouvoir s'adapter au parcours sinueux du fleuve. C'est un fleuve assez lent quand même.
La carène. Hein?
La carène.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? C'est la partie immergée de la coque d'un bateau.
Oui.
Donc, vous voyez, le tirant d'eau 70 cm, il fallait vraiment que ce soit un fond
très, très, peu,
très, très plat.
70 cm.
Alors, donc, la croisière, elle peut durer de 6 ou 8 jours, dépendamment des choix qu'on fait, avec des escales, évidemment, à Nantes, à Saint-Nazaire, en Senies, Angers et Bouchemaine. Alors, bien sûr, de belles découvertes comme les chantiers navals, les villes médiévales, les vignobles, l'art contemporain et bien sûr des châteaux. La navigation, elle se fait pendant le jour, c'est pas tout le temps. Hein. On est habitué plutôt à des navigations
de nuit.
Oui. Là, c'est au contraire pendant le jour, à une vitesse de 15 km/h, donc très peu, très, très lente.
Le temps d'admirer le paysage.
Exactement, pour laisser le temps au paysage, aux passagers d'admirer le paysage et d'observer la vie qui se déroule sur les rives. Puis, comme c'est tout à fait exceptionnel de voir maintenant des bateaux, les riverains sont tous surpris et ils brandissent les appareils photos, ils envoient la main aux passagers. Alors, l'article cite quelques moments marquants quand même de la croisière. Bon, les châteaux de la Loire, bien évidemment, et l'excursion prévoit la visite de trois des châteaux, d'une cinquantaine de châteaux hein, sur le bord de la Loire. Alors, le plus harmonieux d'abord de tous du Val-de-Loire, celui d'Azay-le-Rideau, avec toutes ses influences françaises et italiennes qui lui donnent un raffinement absolument inégalable. Villandry aussi, le château de Villandry, qui est le dernier des grands châteaux de style Renaissance, et le château d'Uzé du XVe siècle, qui a servi d'inspiration pour le conte de la Belle au bois dormant.
Elle-même.
Elle-même. C'est charmant, n'est-ce pas?
Oui.
Alors évidemment aussi, les classiques de Nantes, c'est quand même une ville très, très importante. Et les chantiers navals ont été fermés en 1987. À ce moment-là, Nantes a pris un autre virage, misé sur la création. Et son originalité la rend fort attrayante parce que c'est facile à visiter. Ils ont tracé une ligne verte sur le trottoir qui relie les principaux aspects. Attrait, en tout cas. Alors, le château des Ducs de Bretagne, juste ça. La cathédrale, le passage Pommeray sont des incontournables, mais il y a aussi le bâtiment Mani, le maître à ruban, le hangar à bananes. J'ai regardé tout ça sur Internet, c'est très, très beau.
Ça doit.
Oui. Il y a aussi les machines de Lille. Alors, ça, ce sont des constructions gigantesques qui sont inspirées du monde de Jules Verne ou de l'univers mécanique de Léonard de Vinci. Ce sont des constructions articulées qui sont spectaculaires et il y a des artisans qui expliqueront le processus de création et de fonctionnement de ces créatures. Les chantiers navals de Saint-Nazaire, Il faut savoir que ce sont parmi les plus vieux, ils ont quand même 150 ans d'existence, et parmi les plus grands d'Europe. De la galerie piétonne, on peut observer des milliers d'ouvriers qui s'affairent à la construction du plus gros paquebot du monde, qui sera long de 362 mètres, je ne sais pas si vous vous rendez compte, et qui pourra accueillir 6360 passagers.
J'en parlerai bientôt.
Fascinant.
Oh, c'est complètement fou, hein? La livraison est prévue pour avril 2016 et c'est le 122e navire construit à Saint-Nazaire. Il y a un musée aussi qui s'appelle Escale Atlantique et qui retrace l'histoire des grands transatlantiques et fait revivre l'épopée des traversées océaniques. On peut voir des cabines comme celle du bateau, le Normandie, le France, le Liberté et des centaines d'objets de collection. La route du Muscadet, évidemment, on ne peut pas parler de quoi que ce soit en France sans parler des vins. Absolument. Alors, elle commence à partir d'Ancenis, elle s'étend sur 300 vignobles et il y a même le propriétaire d'un domaine qui s'appelle Cache-Michère, pas Cache-Misère. Il ouvre ses caves, il raconte l'histoire de son château et fait même déguster ses vins. Il y a évidemment le patrimoine d'Angers, qui est une ville d'art et d'histoire. Elle a une imposante forteresse du XIIIe siècle. On a de la peine à imaginer ça ici, hein? Oui. Elle est flanquée de 17 tours en pierre de schiste noir. Et il ne faut pas rater la spectaculaire tapisserie de l'Apocalypse du XIVe siècle. Tenez-vous bien pour les dimensions de la spectaculaire tapisserie. 100 mètres de long, 4,50 mètres de haut.
100 fois sur le métier, remettez...
Votre ouvrage. Ancenis et Bouchemaine, donc ce sont deux villes qui sont chargées d'histoire à pied. On peut les visiter à toute liberté, au rythme, et profiter des sentiers qui permettent de superbes randonnées sédestres. Voici donc quelques propositions, peut-être pour M. Baudouin, en première partie, qui nous avait posé les questions. Donc, proposition de séjour dans la superbe région du Val-de-Loire, décrite dans la presse du 7 mai par André Lebel. La Loire en croisière.
Vers les docks où le poids et l'ennui me courbent le dos. Ils arrivent le ventre alourdi de fruits, les bateaux. Ils viennent du bout du monde apportant avec eux des idées vagabondes aux reflets de ciel bleu, de mirage. Traînant un parfum poivré de pays inconnus et d'éternels étés où l'on vit presque nu sur les plages. Moi qui n'ai connu toute ma vie que le ciel du Nord, j'aimerais les barbouiller ce gris environ de bord. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Dans les bars à la tombée du jour avec les marins, quand on parle de filles et d'amour, un verre à la main, je perds la notion des choses et soudain ma pensée m'enlève et me dépose un merveilleux été sur la grève, où je vois tendant les bras l'amour qui comme un fou court au-devant de moi et je me pends au cou de mon rêve. Quand les bars ferment, que les marins rejoignent leur bord, moi je rêve encore jusqu'au matin debout sur le port. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Un beau jour sur un rafio craquant de la coque au pont, pour partir je travaillerai dans la soute à charbon, prenant la route qui mène à mes rêves d'enfant sur des îles lointaines où rien n'est important que de vivre, où les filles alanguies vous ravissent le cœur en tressant ma tondie de ces colliers de fleurs qui enivrent. Je fuirai laissant là mon passé sans aucun remords, sans bagage et le cœur libéré en chantant très fort. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des mers. me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Emmenez-moi au bout de la terre, emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La, 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 la.
Alors, c'était « Emmenez-moi » de Charles Aznavour,
tellement beau,
qu'on aime d'amour.
Oui.
Alors, on s'en va dans le monde du numérique. D'abord, un article de Stéphane Baillargeon, publié le 16 avril 2015 dans la section « Médias du Devoir ». Et le titre, c'est « Le kiosque de magazine Next Issue en français ». Le kiosque de magazine numérique Next Issue est disponible en version française depuis le lundi 20 avril. La nouvelle interface donne accès à des dizaines de publications américaines et canadiennes, mais aussi à une vingtaine de magazines ou de publications québécoises. Alors, on fait un parallèle. Si Netflix a rendu possible la télévision à volonté, Next Issue offre un buffet de magazines à volonté. Le site de Next Issue, dont l'adresse Internet est nextissue.ca/fr, propose des versions dématérialisées des publications depuis un peu moins de 2 ans. Les magazines en ligne sont accessibles à volonté sur tous les petits écrans, les tablettes comme les téléphones. Les contenus peuvent être téléchargés et conservés, ce qui rend l'application très attrayante pour les voyageurs.
Bon, c'est bien beau tout ça, là, mais généralement, ça coûte cher.
Eh bien, ça dépend, ça dépend.
Oui.
Alors, moi, je ne trouve pas que c'est cher.
Bon,
c'est relatif, tout ça.
On va voir ça.
La plateforme propose 2 formules d'abonnement. La version à 10 $ par mois donne accès à tous les mensuels et bimensuels, soit 158 publications au total, y compris leurs archives. L'abonnement à 5 $ de plus rajoute une douzaine d'hebdomadaires, là encore avec les anciens numéros. Il faut aussi se rappeler que beaucoup de magazines enrichissent leur contenu en version dématérialisée, par exemple en proposant des vidéos en surplus.
Ça me passe, hein?
La compagnie américaine Next Issue existe depuis la fin 2013. C'est Rogers qui a été le premier éditeur du pays à s'y associer. Environ 55 millions de magazines ont été téléchargés en 1 an et demi au Canada. Catherine Louvet, qui est directrice de la direction des éditions Rogers Québec, dit que c'est un produit qui plaît beaucoup aux jeunes familles. Leur stratégie, ce n'est pas de convertir les gens du papier au numérique. Ils veulent aller chercher un nouveau public qui ne lit pas les magazines sur papier en ce moment. Elle ajoute que la beauté de cette plateforme, c'est de tomber sur du contenu qui nous surprend, comme le permet le service de vidéo à la demande Netflix. Parmi les magazines disponibles, mentionnons, entre autres, des publications québécoises comme Châtelaine, Enfants Québec, Géoplein Air, L'Actualité, Protégez-vous, Québec Science, Ricardo et Vélomag. Alors, c'était un texte de Stéphanie Baillargeon, publié le 16 avril dans Le Devoir. Toujours en lien avec le numérique, cette fois, un texte de Marie-Ève Maurras, publié le 31 mars dans La Presse, et où on parle de guide de voyage léger et économique. Que vous planifiez un long voyage ou encore un périple vers un pays sur lequel il y a beaucoup de choses à lire, un problème risque de survenir, c'est la lourdeur des guides de voyage qui s'accumule dans les bagages.
Ah, c'est quelque chose.
Oui. Et dans les bagages, et comme dans les bagages à main, ce qu'on transporte aussi.
Ouais.
Hein. C'est le problème des gens qui voyagent à vélo, qui doivent affronter ce problème-là. Mais même si vous ne voyagez pas à vélo, les compagnies aériennes et vos épaules se soucient, elles aussi, du poids des bagages. La solution pour trimballer des tonnes d'informations sans s'alourdir réside bien souvent dans le numérique. Alors d'abord, on peut acheter des guides. Que vous soyez propriétaire d'une tablette Apple ou Android ou d'une liseuse comme le Kindle ou le Kobo, les grandes maisons d'édition de livres de voyage offrent des formats numériques de leurs ouvrages. C'est le cas des guides édités chez Ulysse et chez Lonely Planet, dont les livres numériques se vendent au minimum une quinzaine de dollars. Pour économiser, ces deux maisons d'édition permettent d'acheter les chapitres de chaque ouvrage. Par exemple, si la seule région du Yunnan vous intéresse, on n'a pas besoin de payer pour l'ensemble de l'ouvrage consacré à la Chine.
Ça, c'est intéressant.
Oui, c'est bien.
Oui, parce que souvent, vous apportez le guide au complet.
Donc, on n'a pas besoin de tout ça.
À l'intérieur du guide.
Alors, on paie environ 5 $ par chapitre.
Très bien.
Par contre, si vous décidez d'acheter plus de 4 chapitres du même livre, alors l'achat de l'entièreté devient plus économique. Oui. Économique. On peut aussi faire des emprunts numériques. Une simple connexion Internet, pourvu qu'elle soit disponible, c'est une condition indispensable, permet de se rendre à la bibliothèque de sa municipalité. La liste des bibliothèques permet d'emprunter des livres en format numérique pour tablette ou liseuse et diffusée sur le portail prêt-numérique, en un seul mot et au singulier, .ca. Ces emprunts peuvent se faire peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Mais attention de ne pas télécharger les documents trop tôt. Comme pour les livres physiques, les livres numériques ont une date de retour.
Ah oui.
La plupart du temps, le fichier expirera au bout de 2 ou 3 semaines selon les bibliothèques.
Ah, puis, c'est un bon conseil, ça. Hein?
Oui, c'est un bon conseil parce qu'une fois téléchargé le livre numérique, on n'a pas besoin d'être en réseau ou d'avoir une connexion pour le lire.
Mais si on l'achète, on ne risque pas de le voir disparaître.
Non plus. Non, mais si c'est un prêt, on l'a pour quelque temps seulement.
D'accord.
Donc, il y a des applications qui peuvent être utiles aussi. Selon les villes dans lesquelles on compte voyager, bien des applications proposent des informations pratiques qui peuvent être téléchargées. Parfois, elles sont créées par les offices de tourisme des villes ou du pays où vous vous rendrez. D'autres prennent leurs informations de sources déjà existantes, comme Wikipédia. C'est le cas de Triposo, une application gratuite qui propose des guides de voyage pour plusieurs destinations et que vous pouvez consulter même si vous n'êtes pas en ligne. Le site TripAdvisor propose également une série de guides à télécharger avant le départ. On y suggère des itinéraires à parcourir selon le nombre de jours passés dans une ville ou une région.
C'est intéressant parce que de plus en plus, les compagnies d'aviation, je peux vous en dire quelque chose, commencent à surveiller le poids des bagages,
oui,
y compris les bagages
à
main. Et je veux vous dire une chose, c'est très heureux. Hein, commence à être temps qu'on le fasse.
Oui.
Parce qu'on a beaucoup abusé.
Ils exagèrent un peu quand même.
C'est ça, on a exagéré énormément.
Information utile.
Un kilo près, il ne faut pas exagérer. Hein.
C'était donc un texte de Marie-Ève Maurras, publié le 31 mars dans la presse. Plaisir numérique maintenant à Montréal, pour ceux qui y habitent. L'an dernier, la première édition du Printemps numérique a connu un grand succès. L'édition 2015 s'annonce encore plus prometteuse. Au menu, espace interactif, performances visuelles et sonores, expériences immersives et musique électronique de pointe. Au centre-ville, il ne faut pas manquer Maestro, œuvre interactive où le public jouera les chefs d'orchestre en contrôlant les jets de la fontaine de la place des festivals à l'aide d'une baguette munie de capteurs. À l'espace ludique, les adeptes de jeux vidéo pourront rencontrer des concepteurs et essayer des nouveautés. Finalement, il y aura aussi le Festival international d'art numérique Electra et le Festival de musique électronique Mutech qui se déroulera au Musée d'art contemporain et à différents endroits jusqu'au 21 juin.
Yes! Eh bien, moi, je vais parler du syndrome de l'œil numérique. Ça va bien avec ce dont tu viens de nous parler. Alors, donc, voilà, ça, c'est quelque chose que nos ancêtres, évidemment, n'ont jamais craint, bien sûr. Et c'est donc le syndrome de la vision informatique. Oui, c'est maintenant une condition et c'est le terme médical qui désigne les yeux rouges et secs, la vision floue, la fatigue, le mal de cou, les maux de tête causés par l'usage extrême des appareils numériques. Une personne normale cligne des yeux en moyenne 18 fois par minute.
Mm-hmm.
Mais ce nombre diminue de moitié lorsqu'elle regarde un écran d'ordinateur, ce qui cause évidemment une déshydratation pour l'œil. De plus, nos yeux doivent constamment refaire le point et se repositionner. Alors, essayez la règle 20 20-20. C'est-à-dire que pour chaque 20 minutes que vous passez devant l'écran, vous regardez 20 secondes un objet qui se trouve à 20 pieds. Et si ça ne fonctionne pas, augmentez la taille de la pellicule et gardez votre écran à environ 1 mètre de votre visage.
Les Tanguy, vous savez qu'il y a de plus en plus de jeunes adultes qui retournent habiter chez papa-maman. Et selon un sondage effectué dans 28 pays, la proportion d'Européens âgés de 18 à 30 ans qui vivaient sous le même toit que leur géniteur est passée de 44 % à 48 %. C'est énorme, hein?
Oui.
Je crois que ceci complète notre émission. Alors, merci à André, merci à Marie.
Au revoir, merci.
Merci
à
aussi.
À toi, Michel.
Oui, parce que je ne mentionne jamais mon nom. Merci à Jean-Sébastien. Hein? Oui, merci, Jean-Sébastien, aussi.
De l'autre côté, il nous fait tout le temps sourire.
Écrivez-nous sur notre site canalm.org. On attend vos nouvelles. On lit tout ce que vous nous envoyez, bien sûr. On est en reprise à 13h et à 21h. Et on vous souhaite une très bonne journée.
Bonne journée. À la semaine prochaine. Au revoir.